Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Olivier fait du jeu de rôle. Il s'agit de l'avant-dernier épisode de la session de live play enregistrée avec des amis, live play basé sur le jeu Dungeon World. Avant-dernier épisode aussi de la série des podcasts qui avait déjà été diffusé sur les carnets d'un quarantenaire curieux. Aujourd'hui, donc, nos aventuriers vont entamer leur périple en direction du manoir des Weiss pour pouvoir enquêter et vérifier par eux-mêmes si les légendes autour de la famille Weiss se vérifient. Bonne écoute à tous et à bientôt! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la suite de l'enregistrement de notre partie de Dungeon World que nous avions fait avec des amis. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà précisé lors des précédents épisodes concernant les bruits que vous allez pouvoir entendre, que ce soit les bruits d'assiettes, de verres ou de jets de dés qui sont audibles au micro, mais nous avons enregistré ça dans des conditions réelles, c'est-à-dire le micro au milieu de la table, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de bruits parasites, mais bon, c'est un peu comme si vous étiez au milieu du salon avec nous. Donc une bonne écoute et puis à bientôt pour la suite de ces aventures, car j'ai déjà fait le montage, il ne me reste plus qu'à le poster, donc vous devriez le récupérer très très vite. A noter qu'il n'est pas impossible que je dissocie les épisodes spécifiquement orientés sur le jeu de rôle en général, que ce soit les parties enregistrées, mais aussi lorsque je parle de jeu de rôle au sens large, sur un autre flux, sur un autre podcast, mais je vous repréciserai ça ultérieurement. Allez, à bientôt et bonne écoute.
Lapi,
il a les pétoches. Hein.
Et du coup, il fait quoi qu'il a les pétoches ?
Il a les deux dagues sorties et puis il pense que c'est sa dernière heure. Parce que là on
il est pas, on parle terrorisé.
Parce que
au point d'être.
Disons que voilà,
pétrifié.
Disons qu'il pense sincèrement que c'est voilà, que sa dernière heure est venue. Quoi. Là, pour lui. On lui parle de... Enfin, il a presque en face de lui le croque-mitaine dont on lui a tellement parlé. Et...
On va se réunir, effectivement, autour du feu. Je vais pas vous demander de prier.
Je vais créer une herbe de feu.
Et on va penser à complètement autre chose, à sortir de là. À s'extirper, en disant, voilà, on est...
À faire qu'un avec l'environnement.
Voilà, c'est ça. Ne pas se dire tiens bah on va avoir peur, on va contrer cette créature.
Tu leur demandes de faire de la méditation alors que il y a un fantôme qui arrive sur eux.
C'est ça.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que vous suivez cette recommandation de Mamadou?
En leur précisant qu'effectivement peu importe l'endroit où on ira, il sera là. Il nous massacrera.
Où est-ce que tu incantes de le faire?
Je vais l'écouter, je suis curieux.
Ok.
Ce sera temps de le faire après.
Donc comme c'est toi qui es sur le... qui propose ça, j'imagine que tu vas les orienter, les guider dans la façon de faire.
On va se toucher, on va se prendre par la main, tout simplement. Et on va penser à un endroit qui vous convient. Un endroit qui pour vous est synonyme de paix, de sérénité.
La montagne.
Voilà, un endroit où vous sentez bien, effectivement. Donc,
votre une caverne. Une salle de torture.
Une caverne. Je crois que c'est un truc qui peut nous rappeler tous les trois. Une caverne, c'est un truc qui est lié avec la montagne, qui est lié avec la sécurité. Tu es entouré par la montagne. On est dans un endroit plutôt sombre, plutôt isolé. Ça peut convenir à tout le monde.
C'est ça.
Allez, on serait bien. On s'imagine dans une caverne.
Voilà. En sécurité.
Quel serait parmi vous, enfin, je parle à la pie, à la marche-femme, la personne qui serait le moins réceptif, finalement, à la demande de Mamadou? Qui serait le plus méfiant par rapport à ce qu'il propose?
Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis peut-être un peu trop naïf. mais j'ai pas cette méfiance par rapport à.
Non, mais enfin, là, en gros, il y a la pression de l'extérieur, enfin, il y a cet esprit qui vous arrive dessus.
Ah, mais ça, c'est lui qui le sent.
Ah, vous l'entendez aussi, vous, le bruit du cheval? Non,
oui, on a entendu des choses.
Oui.
On n'a pas ressenti ce que lui, il a ressenti.
Non.
Donc tout ce qui est décrit, lui, il a le poids de ses histoires d'enfants. Moi, pas. Moi, j'arrive là, j'entends un peu un bruit d'un cheval, lointain, un peu confus.
Qui se rapproche, hein.
Ouais, mais si tu veux, ce principe, enfin... Voilà, quoi.
Ouais. Donc ce serait toi finalement le plus apeuré des trois.
Ah bah oui, clairement.
Et bah c'est toi qui va me défier le danger. Attends, avant de lancer les dés.
Oui.
Défier le danger avec avec quoi? Je serais tenté de dire la sagesse. Ça me paraît pas déconnant. Ça va pas être le charisme, ça va pas être la force ni l'intelligence, ça va pas être la constitution ni la dextérité, donc ça va être la sagesse.
D'accord.
Par contre, du coup, tu es aidé par les autres. Et notamment par Mamadou qui finalement, par son approche, t'intime le sentiment de sécurité. Et en tout cas, a l'air de savoir de quoi il parle.
Après, je effectivement, peux le sécuriser, peux l'aider effectivement à se détacher en fait, de la situation.
Je sais que je peux peut-être l'aider, puisque le lien qui nous unit, c'est qu'il a senti le contact du feu et connaît dorénavant ma puissance.
Ouais.
Cette connaissance de ma conscience peut peut-être
bah, vous pouvez aussi l'aider, rassurer. Vous pouvez l'aider tous les deux. Donc pour ça, vous allez lancer 2d6 plus le lien que vous avez avec. Donc vous avez peut-être plus 1 ou plus.
Alors moi, de base, j'ai 0.
Ouais, en sagesse.
Ouais.
Mais tu lanceras après. Pour l'instant, ouais. Eux vont essayer de te donner des bonus pour défier le danger.
2d6 plus quoi? J'ai pas compris.
Plus le lien. T'as une phrase de lien. Et à chaque fois que t'as une phrase de lien avec une personne, au début, t'as plus 1. Cette valeur peut monter.
Et pour l'instant, j'ai que plus.
Donc pour l'instant, t'as plus 1. Ah, donc tous les deux, vous devez avoir plus 1 avec lui.
10 plus 1.
10 plus 1, ça fait 11.
5 plus 1, ça fait 6.
Ok. Bien. Donc toi, tu lui donnes plus 1 à son G.
Ouais.
Et le 6, je me le garde de côté pour l'instant. Donc, vous prenez par les épaules, ouais, par les...
La sagesse, elle compte pas, tout le monde.
Et du coup, tu te sens un peu plus rassuré, et t'arrives un petit peu à faire le vide dans ta tête, à faire le vide dans ton esprit, et à t'imaginer finalement avec eux dans cette grotte, comme ils te décrivent, pour faire abstraction de l'ambiance des marées, et de l'ambiance de ce bruit de sabots, et de ce hennissement vraiment lugubre qui arrive sur vous. Est-ce que tu vas me lancer 2d6 avec sagesse, pour voir, avec 1 plus 1, donc, pour voir ce qui se passe?
Ou pas. Il a le choix, il n'y a pas le choix. Toi.
Non, il n'y a pas le choix.
Ah, bien.
13.
Oui.
Ah, comme quoi, c'est
ok.
C'est évident.
Porte-bonheur ou porte-malheur?
Ah bah non, 10 plus, c'est toujours parfait, donc effectivement.
Et moins 1.
Non, je suis
désolé. Non.
Sagesse 12. 8, 9, 12. J'ai accosté au début.
Donc, du coup, plus ça va, et puis emporté finalement par l'urgence de la situation, tu t'imagines, tu te concentres, tu t'imagines dans cette caverne avec eux. Et tu finis par faire abstraction, et vous aussi finalement, vous êtes tous emmenés dans la description que Mamadou vous fait de la caverne où il souhaite vous emporter par l'esprit. Et d'un coup, vous n'entendez plus, même plus, le bruit des corbeaux qui passent au-dessus des marais, les croix-croix et les grenouilles qui plouvent dans la...
Les croix-croix
et les grenouilles qui plouvent dans l'eau. Et ni même ce hennissement et ces bruits de sabots. Et le calme plat d'une caverne, quoi, finalement, juste avec le goutte-à-goutte d'une eau qui tombe. Ça paraît durer... des minutes allongées, comme finalement un bref instant, mais en même temps ça paraît durer très longtemps.
Un temps suspendu.
Voilà, un temps suspendu, et vous revenez, et puis au bout d'un moment, tu sais, tu rouvres les yeux, c'est un peu comme à l'issue d'une méditation, d'une conscience, d'une pleine conscience, tu rouvres les yeux, tu as l'impression de redécouvrir ton environnement, et tu es toujours au milieu de ces marées. Toujours dans votre position à vous tenir les épaules, et plus un bruit de sabots, plus un bruit de hennissement, comme si finalement votre concentration a suffi à faire disparaître le cavalier sans mâchoire. Qu'est-ce que vous faites?
On va se coucher.
On n'avait pas mangé.
Et des champignons. Et des champignons.
Ils étaient pas un peu hallucinogènes? J'ai cru entendre des cheval tout à l'heure.
On était toujours certifié qu'ils étaient comestibles.
Peut-être étaient-ce les champignons.
Alors, moi qui ai encore le cavalier, je le sens voilà, effectivement s'éloigner.
Tu le sens plus du tout.
Ah bon?
Non.
D'accord. Ok.
À te demander finalement si c'était pas une hallucination due aux champignons. C'est vrai que maintenant que Marcheflamme soulève l'idée, ça te paraît presque pas si déconnant que ça.
Pourquoi?
Tu m'as vu faire.
Heureusement que c'est que de la pomme. Hein.
Donc dormons du coup.
Ben, la nuit se passe sans autre souci. Merci, ça va, j'en ai encore plein. Bon. Ouais, bah. Sans autre problème. Et le lendemain matin, malgré une petite brume assez intense, au-dessus des zones humides, le soleil brille fortement, à peine levé, et vous discernez comme ça, à l'horizon, un manoir, une espèce de grande bâtisse, effectivement, assez lugubre, mais presque scintillante quand même au soleil. Qui se dessine au loin. Qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de là?
Tu te rappelles, t'as parlé d'un esprit d'une dame là. Tu la sens encore?
Non, plus du tout. Les deux sont effacés. Et je ressens pas forcément de quoi que ce soit là ce matin.
Bon alors on y va?
On y va.
Bon, c'est, bah, écoutez, en pourquoi temps, pas,
pas... Pas forcément de.
Bon, c'est par où la route? Objectif, il connaît le chemin.
De toute façon, c'est un marais, donc il n'y a pas vraiment de route. Hein. C'est, tu vois le manoir.
Non, mais ma question, c'est on y va, on s'en va, moi.
On peut faire ça, on s'en aller. Et dans ce cas-là, effectivement, je suis partir par l'est. Et.
Bah, tu me dis, moi, je vous suis.
En 24 heures, si on marche constamment, on sera désormais à l'orée de cet endroit maudit. Hein.
C'est ce que tu veux?
Ah non, je réponds à sa question.
Il me dit... Moi, c'est le matin, je me lève, je pars. Après, où, je m'en fous.
Après, effectivement, voilà, le manoir lui-même est à peine 5 lieues, mais...
Et
ah, c'est moi, j'ai refait autant de chemin.
Qu'est-ce que t'essayes là?
Moi, je dis juste, c'est le matin, on se lève, on part. Après, c'est pas moi qui donne la direction. Depuis 4 jours, on suit ce que tu nous dis.
Un petit tour de 5 lieues, on va regarder, il faut qu'il y ait un petit truc.
C'est-à-dire
quelques piécettes.
Des pièces?
Peut-être beaucoup de pièces.
Pourquoi faire?
Du pognon, de l'oseille, quoi.
Ça sert à quoi?
L'or est un métal extrêmement précieux et qui fournit effectivement
tu me prends pas pour demeurer,
de très bonnes armes.
Une arme, je la fabrique.
Oui, mais il faut bien un métal.
Bah ouais.
Si tu as de l'or ou de l'argent, tu pourras constituer des armes d'une très bonne qualité.
Vaut mieux les faire en acier, c'est plus solide.
Contre un loup-garou, l'argent sera plus utile.
Les loups-garous existent?
Et vous envoyez souvent par ici?
Parce que moi, je ne sais pas.
Non, il y a déjà suffisamment d'abominations dans cet endroit pour que n'en rajoute pas quelques horreurs de plus.
Ok, bah écoute,
moi je serais assez curieux effectivement de savoir ce qui s'est réellement passé et puis essayer de libérer ces âmes.
Ou au moins les délester d'un lourd
c'est
héritage.
C'est le prénom de ma fille.
Ces âmes, ouais. Ouvre toi. Eh ben, allons-y. Dis de nous.
On n'a pas besoin de lui. Hein. Donc alors, le château, il est sur une butte.
D'accord.
Faut monter la butte.
Il y a un petit peu de brouillard sur le bas. Mais en fait, le château est au-dessus. Non, mais on n'a pas besoin de toi, tu peux aller te coucher.
Depuis le début, j'ai pas fait grand-chose.
Donc, nous disions... je te fais court, hein, mais on y va. Parce que ça n'a pas été si simple.
de se décider.
Et donc, le château, il est sur une butte. Ça fait une petite brume, tu vois, le matin, là, sur les marais.
Ouais.
Et le château, manoir, hein, parce que le château, c'est un gros manoir. Un peu sombre.
Oui, c'est un manoir. Ouais.
Et il est sur une surélévation quand même. C'est moins humide par là. Au-dessus des brouillards et des brumes. Mais on le devine, hein,
c'est un plus au soleil.
Le regard porte.
Ouais.
Surtout quand c'est tout plat.
Puis tout, bon, là où autant il y a encore un peu de vie dans les marais, là, il y a plus rien autour. Quoi. C'est comme. On est presque d'une terre très très pauvre, quasi stérile, mais là c'est totalement stérile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre, tout a crevé.
En même temps, il n'y a pas beaucoup de terre non plus. Hein. C'est très caillouteux, c'est minéral. C'est...
De toute façon, mais là, il n'y a rien de vivant. C'est comme si tu avais eu la disparition de tout être vivant, végétal, animal. Sur presque une nuit à la ronde autour du manoir.
C'est minéral.
Bon, allons-y. Hein ? Feu ? Enfin,
allons-y. Oui, effectivement, feu, oui.
Droit devant.
Ouais,
d'accord. Vous avancez donc en direction du manoir, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et je me souviens d'un 6 ou un non exploité jusqu'à présent.
Pourquoi 6 quoi ? Donc 6 tout court ?
6 ou moins. Donc 6.
C'était pas ça,
c'était
pas ça, non
Non, c'était 6.
Marche-flamme a toujours ce côté un petit peu curieux, finalement, l'environnement qu'il découvre, qui est assez loin de sa montagne natale, et forcément un peu sans trop de connaissances des dangers que peuvent représenter les marées, et alors qu'il... Il marche sur un endroit un peu plus sec, finalement, avec un bâton, fait des petits mouvements dans l'eau pendant qu'il suit ses camarades. Sauf qu'il ne se rend pas compte de l'ondulation qui a pu apparaître sur la surface de l'eau. Et devant lui, finalement, apparaît presque instantanément, comme ça, tellement ça a été très très vite, une gueule béante comme ça, pleine de dents, un énorme
c'est
crocodile.
Fréquent sur les gueules.
Un énorme crocodile.
Un crocodile.
Mais quand je dis énorme, c'est énorme, vraiment énorme. Le truc, il doit faire 15 mètres de long, quoi. Mm-hmm. La gueule en elle-même, elle s'ouvre d'un mètre 50, quoi. Mm-hmm. Presque autant que ta taille à toi. Qu'est-ce que tu fais ?
Je ne peux pas mettre 50, hein, c'est bon, hein, on n'est pas tous des nains. Hein,
presque autant, je dis. Qu'est-ce que tu fais ?
Je pense que je bondis en arrière pour commencer.
D'accord.
Ça me paraît cohérent.
J'avais une question encore que je pouvais poser.
Qu'à pas en avant.
Oui, mais ça c'est sur la scène d'avant.
Ah merde. Donc, d'accord. Non.
Là c'est fini. Enfin, ouais, on fonctionne en scène, donc là pour le coup. Mais rien ne t'empêche de relancer un dissert. Donc tu cherches à éviter finalement les mâchoires qui vont se refermer. À peine apparu devant toi, finalement, tu les vois commencer à mouvement pour se refermer sur toi et tu essaies de leur échapper. Donc tu vas braver le danger avec ta dextérité.
9.
Avec le. T'as pas de plus. 9. Bah, effectivement, tu bondis suffisamment vite. Sauf que les mâchoires se referment et viennent prendre le tissu de ton manteau, de ton vêtement, et tu te retrouves finalement tiré en arrière par cet énorme crocodile, enfin vers l'avant pour toi, oui. Tu te retrouves tiré par cet énorme crocodile. Les autres, comment vous réagissez ? Vous venez d'entendre un clac comme ça, monumental, avec un bruit d'eau d'un coup phénoménal. Derrière vous, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, je sais que s'il se fait emporter dans l'eau, il sera irrécupérable.
Oui.
Donc, j'ai tenté effectivement de venir frapper le seul endroit qui regarde crocodile attaquant un buffle dans l'eau et tu comprendras. Donc, l'idée c'est qu'avec mon arme manche, je peux pas traverser le cuir d'un telle créature, hormis au niveau des yeux. Donc, j'ai tenté effectivement
Je serais tenté pour te dire que tu pourrais couper cette tunique. Pour éviter
bah, on est deux après, donc on peut parfaitement...
Moi j'ai pas de dague, donc... Que toi, tu
peux... Donc vas-y, hein...
Bah, mon réflexe, moi, c'est de tenter de frapper au niveau de l'œil le crocodile pour qu'il relâche, ne serait-ce que temporairement,
la prise. Donc tu sautes sur la tête pour lui crever les yeux.
Alors, je vais peut-être pas te casser sur la tête, mais en tout cas, je vais me rapprocher et tenter de frapper au niveau de l'œil.
Ok, bah... ça s'appelle tailler en pièces avec force. au moins que tu aies une action spécifique.
Précision plus qu'avec force, parce qu'un œil, il n'y a pas besoin de pousser fort. Hein.
Alors, bah, là, c'est de l'attaque au corps à corps. Donc,
après, j'ai l'attaque sournoise. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que le crocodile peut être surpris par le fait...
Ça dépend de la description de l'attaque sournoise, si ça colle...
Attaquer deux. Alors.
C'est quoi qu'ils disent dans la description?
T'as encore une attaque sournoise.
Quand vous attaquez un ennemi sans défense ou par surprise avec une arme de mêlée, vous pouvez soulager un infligé aux dégâts ou de lancer 2d10 plus dex.
2d6?
Oui. Ouais. Oui, d6.
Oui, oui, bah, on
ce peut qui ma spécialité.
On peut considérer, vu qu'il est
obligé,
il est focalisé par marche-flamme,
qui est sa proie.
Oui. Que tu le prends par surprise, oui, tout à fait. Oui.
Mec, un bonus de plus 2, nous n'arriverons qu'à un score de 7.
Ce qui est déjà mieux que 6, hein, je vous le rappelle. Ouais.
ça compte.
Ouais, c'est
donc,
c'est
pas la loi du tout. Qu'est-ce que ça dit dans l'action à 7
et le fait que tu... Attends, le fait que tu le surprennes, t'avais pas un bonus?
Non, il y a 2.
Bah, 3. Ah, oui, non, deux, plus deux. Il a plus d'ex plutôt que plus force, justement.
Alors, ce qui est bon
en attaque pour Rupert.
D'accord. J'avais pas compris. Ok. C'est bon, ça fait 7.
Alors, dans les possibilités qu'il y ait, je peux lui infliger vos dégâts plus. Alors, j'ai soit infligé dégâts plus 1d6, ou obtenez un avantage de plus 1 à suivre pour un allié ou pour vous-même si vous en profitez. Donc, finalement, je me dis que je peux peut-être conférer un avantage à Marche-Flamme pour qu'il puisse se libérer.
D'accord. Donc, déjà, tu fais tes dégâts, hein, c'est ça?
Oui. Et donc, en l'occurrence, c'est un D8. Par contre, je n'ai pas de D8.
Il
n'y
en a
pas.
Alors, j'ai que des D6.
Tiens, il y en a un qui est très bien.
Merci. Ça sera 4.
4.
Voilà. Sachant que mon arme est empoisonnée.
Oui.
Et le poison auquel je suis habitué, qui est mon poison préféré, on consomme effectivement, en tout cas à Urborg, les larmes de serpent. Et lorsque, en fait, j'inflige des dégâts à une cible, quand quelqu'un va attaquer, il va tirer 2 dés au lieu d'un et prend le meilleur résultat. C'est-à-dire que, en fait, en lançant, en fait, c'est quiconque inflige des dégâts à la cible tire 2 dés au lieu d'un et prend le meilleur résultat.
D'accord.
Si pas un client parvient à le toucher,
et puis, enfin, voilà, je peux le ralentir, quoi, finalement, et du coup, il prend plus de dégâts. Ouais. Ok. On s'en souviendra. Donc, tu l'as décrit comment ça se passe. Donc, vu la quantité de dégâts que tu lui fais, tu lui crèves pas l'œil. Hein,
non, je touche plus au niveau de la paupière, effectivement, mais voilà. Suffisamment pour pouvoir enfoncer un peu la dague.
Ouais.
Et infiltrer mon poison dans le corps de la bête.
D'accord. Sachant que tu es quand même surpris par l'épaisseur de la peau, même finalement à proximité de l'œil, là où c'est censé être plus fin, tu sens quand même qu'il y a cette écaille qui est quand même très résistante. Pour lui passer à travers le cuir, ça va être costaud. En tout cas, par-dessus, comme là tu l'as fait. Du coup, le crocodile est un peu désorienté, il ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi?
Physiquement, je ne peux rien lui faire.
Ah, tu peux toujours lui coller une droite. Hein,
Ouais, d'accord. Une dague ayant pas beaucoup d'effet. Ce que je vais essayer de faire, c'est rentrer en contact avec cet animal.
Voilà. Oui.
Quels sont...
Je sais pas, est-ce que tu utilises quelque chose en particulier pour ça, ou qu'est-ce que tu cherches à faire?
Il fait des marionnettes, et puis il fait coucou.
C'est ça, certains totems de provocation, notamment. Je cherche à provoquer cet animal pour lui faire
lâcher prise.
Oui. Voilà. Tout en attirant son attention vers moi.
Ok.
Qui pourrait par la suite peut-être me...
Tu cherches à le désorienter finalement et l'attirer vers toi pour qu'il t'attaque toi et lâcher marche-flamme. Bah écoute, vas-y, c'est ton action de totem, là, je sais plus, comme la même que tout à l'heure.
Ouais, hein. Ouais. Mmh. 6 et 3, 9. C'est avec la force?
Non, je sais plus.
Intelligent?
C'était pas la sagesse?
Bah moi c'est la sagesse, oui, toujours, donc ça fait 10, quoi.
C'était où peut-être cette action?
C'était là.
Langage des esprits. Voilà. Lorsque vous prononcez les mots des esprits, un de vos totems.
2d6 plus sagesse.
Ouais. Donc t'as fait 9. 9 plus 2, donc ça fait 11. Ok, bah décris-moi comment ça se passe finalement et quel esprit tu as invoqué pour faire ça.
Bah non, c'est juste rentrer en contact avec cet animal.
Ah oui, c'est le totem qui représente voilà. Cette folie animale.
Donc du coup, j'ai réussi à le canaliser sur moi.
Ouais.
Et donc du coup, effectivement, il lâche prise sur Marcheflamme. Mmh. Se défait effectivement de l'attirance qu'il avait parce que bah il avait un peu celui et son habitacle
non et puis il avait décidé que c'était sa proie hein,
ouais non mais parce qu'il l'avait attiré par un bâton un truc qui, ouais. Voilà, qui
Marcheflamme tu vois la mâchoire de cet énorme crocodile qui finalement lâche ton vêtement pour commencer à se diriger vers Mamadou. Que tu fais toi du coup?
Un sac à messe.
J'essaie de reprendre un truc.
Oui, il vient de
faire
tu vois le crocodile qui lâche ton vêtement d'un coup attiré par Mamadou et tu vois qu'il commence à se diriger vers Mamadou comme si il y a deux secondes, enfin même pas deux quarts de seconde, il pensait qu'une chose c'était à te becter et puis d'un coup il lâche prise et il commence à prendre la direction de Mamadou avec ses petites pattes là comme ça.
Mais est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il a la gueule?
Ah oui, tout à fait. Oui, comme s'il avait décidé de manger Mamadou maintenant. Hein.
C'était plutôt qui voulait manger, c'était moi, oui.
D'accord. Alors justement, ce que je cherchais, il y a un truc qui m'échappe un petit peu. J'ai pas bien saisi si. Alors il y a un des trucs où je crée, j'invoque une arme de feu, donc il y a bien écrit invoquer. Sinon, il y a vous pliez une flamme à votre volonté. Il y a plusieurs trucs où c'est ambigu, où je sais pas si c'est une flamme qui apparaît ou que la flamme existe au préalable.
Vous pliez une flamme, ouais, je pense qu'elle existe au préalable.
C'est pour ça que c'est ambigu.
Après, je pense que peut-être un souffle enflammé, ou tu peux créer un tout petit peu de flamme du début. Là.
Je pense que l'intérêt du personnage, c'est qu'il se promène toujours plus ou moins avec une torche, avec une flamme à proximité.
Je sais pas, tu vois, par exemple, dans le descriptif, tu es le feu. Il écrit que je suis le feu. Alors, c'est bizarre. Donc,
tu peux peut-être
après, c'est peut-être selon ton interprétation, hein, libre à.
C'est pour ça que j'en parle avec toi, qu'on soit cohérent.
Du moment que c'est cohérent dans la fiction.
C'est pareil, la salamandre, à la base, est censée cracher le feu. Je l'ai vu nulle part là, donc j'en parle pas dans ce sens-là, mais dans la mythologie.
Si
là,
c'est cohérent pour toi dans l'histoire, tu me racontes ce qui se passe, c'est tout.
Je vais invoquer une arme de feu. Ça, au moins, là, je n'ai pas d'ambiguïté sur ce que je fais.
Mais te limite pas. Enfin, voilà. Interprète comme ça quand ça t'arrange.
Si je suis plus dans l'interprétation, à ce moment-là, je plierai une flamme à ma volonté.
Eh ben, vas-y. Tu la fais apparaître et tu la plies à tout. On n'en parle plus. Hein.
Ça dépend si.
T'as un briquet sur toi et puis roule ma poule. Hein.
Ouais, on va partir dans cette idée-là.
Non, mais attends.
La poudre.
Après, sur le principe, elle adopte la forme et le mouvement que je souhaite. Donc, ça peut partir d'un petit truc. Et...
Ouais, voilà. Bon.
Essaye. Ce soir, c'est 5. 5 plus 2, 7. Ah, bah si, 7, ça marche.
7, ça marche, oui.
Alors, 10 plus, ça agit tant qu'il y a assez de combustible à brûler.
Ouais.
Et 7, 9, l'effet ne dure qu'un moment. Donc, ça va durer qu'un moment.
Donc voilà, comme tu le fais apparaître sur rien de concret, parce que tu t'es pris par surprise peut-être.
Ouais, on va dire que c'est lié.
Tu fais juste un.
L'idée c'était de créer un cercle de feu autour du crocodile.
Ouais.
Donc il restera pas longtemps, mais c'était une manière de le stopper vis-à-vis de lui, tout en l'empêchant de se retourner à nouveau vers. Mais ça va pas être long.
D'accord. Décris ce qui se passe, exactement.
Donc je crée un cercle de feu fixe. Pas mobile autour du crocodile, bien évidemment. Un feu nourri, hein, comme une barrière, si on veut. Et je vous dis, on se barre. Donc on se regroupe. L'idée est qu'on se regroupe tous les trois et qu'on se barre en s'éloignant du crocodile et de l'endroit d'où il est sorti.
Ok.